Psaume 8. Verset 1er. Psaume 8, verset 1er. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif, ou l'agressif, le querelleux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis, les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, comme le verset premier, cela encadre le psaume, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen, amen. Quel beau psaume qui nous parle de la magnificence, c'est-à-dire de la grandeur de Dieu. Dieu est grand partout sur la terre. Alors peut-être vous me répondrez, je ne vois pas Dieu. Vous me dites qu'il est grand partout sur la terre. Depuis que je suis né, je ne l'ai jamais vu sur la terre. Comment comprendre cette parole ? Dieu est magnifique sur toute la terre, dans tous les reliefs, les montagnes, les vallées, dans toutes les splendeurs de la nature. Dieu est magnifique par les milliards et les milliards d'animaux qui peuplent les mers, la terre, le ciel. Dieu est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Dieu se voit par sa création. Sa magnificence est évidente. Pourquoi ne l'avez-vous jamais vu ? Eh bien, c'est comme auparavant, moi-même. Il y a un endurcissement du cœur. Il y a un aveuglement sur nous. Nous n'aimons pas Dieu par nature. Nous ne le voyons pas. Alors qu'il est là et qu'il se révèle. Il est magnifique sur toute de la terre. Mais ce psaume ne parle pas que de Dieu. Il parle aussi de la valeur de l'homme. D'abord, une question. Le frère disait que les enfants se posent beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'il y a là une question. Certainement que vous vous êtes déjà posée. Mais quand je réfléchis à l'immensité de l'espace, de l'univers. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu t'en occupes ? Qu'est-ce que le Fils de l'homme ? Et c'est une vraie question. D'abord, ce psaume qui nous parle de la magnificence de Dieu, à cause de tout ce qu'il fait, nous réduit, nous, quelque part, à peu de choses. Et on se dit, mais qu'est-ce que je suis ? Alors, il paraîtrait qu'il y aurait, et les chiffres ont augmenté parce que c'est la science qui l'a découverte récemment. Vous savez qu'on a envoyé récemment des télescopes dans l'espace et même vers d'autres planètes pour encore davantage photographier, explorer, découvrir l'infiniment grand. Alors, le chiffre, la dernière fois que j'avais été regardé, c'était moins que cela. Mais les récentes découvertes parleraient qu'il y ait 2 millions de millions de galaxies. 2 millions de millions, c'est 2 fois 10 puissance 12. Bon, et peut-être qu'il y aurait, parce que là aussi ça fluctue, la science progresse, elle est imparfaite la science. Il y aurait peut-être 500 milliards de planètes et étoiles par galaxie. Bon, pour avoir un petit peu le total, mais faussé, parce que c'est certainement plus, en tout cas de ce que la science affirme aujourd'hui, pour avoir la totalité des planètes et des étoiles dans toutes les galaxies, il faudrait faire 2 fois 10 puissance 12 fois 500 milliards. J'ai pas fait le compte. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais alors, je suis rien du tout. Et parfois même nous, en tant que chrétiens, on se dit, mais pourquoi Dieu a fait tout ça? C'est curieux, hein? Son immensité, sa grandeur, sa sagesse nous échappent complètement. Et pourtant, il n'y a qu'une planète bleue. Encore d'après la science aujourd'hui, on cherche des exoplanètes. On était certain, il y a 50 ans, qu'on finirait par trouver quelque chose de similaire à notre monde. Et non, on cherche encore. Alors on peut se poser la question, c'est infini de planètes, mais pourquoi nous? Pourquoi cette planète bleue extraordinaire, si belle, unique, et pourquoi je vis dessus? Mais qu'est-ce que je suis pour que tu prennes soin de moi? Et c'est un émerveillement que Dieu nous aime, que Dieu pense à nous, que Dieu a fait la terre pour nous. Ce psaume raconte en fait qu'il y a même une relation de confiance entre Dieu et l'homme. Ce psaume dit que Dieu a confié à l'homme le règne sur cette planète bleue, le règne sur tous les animaux, sur toutes les œuvres de ses mains. Verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Vous vous rendez compte? Dieu a fait notre monde. Dieu est magnifique sur toute la terre et tout ça, il l'a donné à l'homme. Ce qu'il a travaillé, ce qu'il a fait, il a dit à Adam, tiens, occupe-toi. Quelle confiance! Quelle confiance! Et ce psaume va même dire que l'homme est de peu inférieur à Dieu. C'est parce que c'est la Bible qui le dit, sinon on n'aurait pas osé le dire. C'est curieux, ce psaume nous dit à la fois, devant l'immensité de la gloire de Dieu dans l'univers, nous sommes peu de choses, et en même temps, ce psaume dit, non, on n'est pas peu de choses, on est juste en dessous de Dieu. On est juste un peu inférieur à Dieu. Et oui, l'être humain n'est pas un animal, ni même un animal évolué. L'être humain est l'espèce humaine. Est la seule espèce qui ressemble à Dieu. De peu inférieur à Dieu, c'est dans ce sens-là, c'est que l'être humain est la seule espèce qui ressemble à Dieu. Alléluia. Alors vous voyez me dire, moi jamais j'aurais cru que je ressemblais à Dieu. Et je comprends, souvent on pense que entre Dieu et nous, il y a justement tout l'univers de qui est différent, mais en réalité, l'être humain, quelque part, est extraordinaire dans son intelligence, dans ce qu'il a réussi à faire. Il est unique. En fait, l'homme, l'être humain, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Les chrétiens ne voient pas l'homme en le dépréciant. D'ailleurs, Dieu nous a sauvés par un homme, Jésus-Christ. Alléluia. Qui n'était pas qu'un homme, nous le verrons tout à l'heure. De peu inférieur à Dieu, dans une relation de confiance. Oui, parce que la Bible va même jusqu'à dire que l'homme est la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu. Hein, c'est écrit dans le Nouveau Testament. L'homme, dans un sens, a une si grande valeur qu'il peut être considéré, entre guillemets, comme sacré. Je vous lis dans Genèse, chapitre 9, verset 6. Voilà ce que Dieu dit après le déluge. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Genèse 9, 6. Dans ce passage, nous voyons que parce que l'homme ressemble à Dieu, on n'a pas le droit de lui faire du mal. Si on tue l'homme, on doit être tué. Et l'explication de Genèse 9:6 nous dit pourquoi ? Parce que l'homme représente Dieu, ressemble à Dieu, est l'image de Dieu. Notre valeur réside dans le fait que Dieu est notre créateur. Et qu'en tant que père, nous lui ressemblons. Voilà quelque chose qui est étonnant. C'est pour cela qu'un chrétien, dans la Bible, c'est écrit « honorer tout le monde ». Pourquoi un chrétien ne fait pas de mal aux autres ? Pourquoi un chrétien a peur de dire du mal des autres ? Parce que quand on touche à l'homme, on touche à Dieu. Et ça, d'ailleurs, pour nous chrétiens, c'est quelque chose, quand je l'ai découvert et je l'ai compris, ça m'a beaucoup changé, de mon point de vue même, avec mes collègues de travail, avec les incroyants. L'homme est image de Dieu. Et à ce titre-là, on n'a pas le droit de lui faire du mal. Néanmoins, il faut que je vous dise toute la vérité. L'homme a déçu. Ce psaume parle du projet initial de Dieu avec Adam, qu'Adam règne sur la terre. Malheureusement, l'homme est décevant. Adam a désobéi. Il est devenu pécheur. Alors, il est décevant. Avant tout, pour qui ? Il est décevant pour Dieu. Je l'ai dit au départ, quelle relation de confiance ! Dieu fait quelque chose de si beau qu'il est magnifique sur toute la terre. Dieu est magnifique sur toute la terre à cause de tout ce qu'il a fait et il confie ça à l'homme. Et l'homme en fait n'importe quoi. Dieu a été déçu. Souvent, nous pensons avec vérité, « Ah oui, on ne peut pas faire confiance à personne parce que les gens ils nous déçoivent. » Et on est un peu amer et on se dit « Ah, il faut faire attention, il faut se méfier de tout le monde. » Mais on oublie souvent que on a d'abord déçu Dieu. Parce que comme Adam a raté sa mission, comme Adam a chuté, vous aussi dans votre vie, Dieu avait un plan pour vous. Dieu avait quelque chose de bon, de prévu. Mais qu'en avez-vous fait jusqu'à ce jour ? Qu'avez-vous fait de ce que Dieu prévoyait pour vous ? L'homme est décevant avant tout pour Dieu parce que l'homme lui a été déloyal. L'homme est décevant pour nous. Vous en avez fait certainement l'expérience au niveau familial. Vous avez pu être déçu par des enfants. Hein ? Quel parent n'a pas été déçu par ses enfants ? Je ne suis pas prophète, là. Déçu dans le milieu du travail. Nous sommes décevants pour les autres. Et puis, les autres sont décevants pour nous, mais comme je viens de le dire, nous avons nous aussi déçu les autres. Nous avons déçu les autres. Il n'y a pas longtemps, je voyais un témoignage d'un Ukrainien. On l'interrogeait. Vous savez que l'Ukraine, juste avant la guerre, c'était vraiment un pays assez européanisé et avec une façon de vivre qui pouvait ressembler à la nôtre. On lui a posé la question, quelles conséquences a cette guerre pour vous ? Et j'étais très étonné que cet homme a dit très clairement, je n'ai plus aucune illusion sur l'être humain. Je sais qu'il y a toujours de la guerre et qu'il y aura toujours de la guerre parce que l'homme est guerrier. Ce ne sont pas ces mots, mot pour mot, mais c'était le contenu de ce qu'il disait. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, on espérait une ère de paix, de prospérité, de bonheur, et un élément seulement, et on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, la Chine. Et ça me fait drôle parce que moi, je revis dans mon enfance, il y avait la guerre froide. Les jeunes n'ont pas connu cela. Mais je me souviens qu'enfant, entre les États-Unis et la Russie, c'était tendu. Et même enfant, très jeune, j'avais peur de la Troisième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, alors que l'on pensait que c'était de la vieille histoire, en réalité, plus qu'on ne le pense, tout est fragile. Tout est fragile. Espérer en l'homme, espérer en l'humanité, ça sera la déception. L'homme est décevant. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons surtout voir ensemble comment ce psaume s'est réalisé. On lit dans Hébreux chapitre 2, s'il vous plaît. Hébreux 2, verset 5, pour terminer. Hébreux 2, 5. Parce qu'en fait, ce psaume parlait d'Adam, mais il parlait d'un autre homme aussi, en même temps. Hébreux chapitre 2, verset 5 à 13. Hébreux chapitre 2, verset 5. Dans la Bible, parfois, il y a cela, des textes dans l'Ancien Testament parlent à la fois de quelqu'un et en même temps de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un, a rendu quelque part ce témoignage. Et là, c'est le psaume 8 qui va être cité. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Alors là, ce n'est pas au-dessus de Dieu, mais des anges, parce que le mot dans l'Ancien Testament peut être traduit par Dieu ou par ange. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alors voilà, le psaume est cité. Et maintenant, il est expliqué. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui dont le psaume 8 parle, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, c'est qui ? Jésus. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Amen. Ce psaume 8 a échoué avec Adam, mais il a réussi en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le deuxième Adam. C'est le deuxième nouvel homme d'une nouvelle humanité, celle des croyants. Alléluia. Paul parle du deuxième Adam en parlant de Jésus-Christ. Le premier Adam, au lieu de régner, a chuté. Le second Adam, Jésus-Christ, a régné, mais par la souffrance, comme nous l'avons lu juste à l'instant. Au fond, c'est Jésus-Christ, l'homme parfait, la vraie image de Dieu. Dans la Bible, il est défendu d'avoir des statues, des images pour représenter Dieu. C'est défendu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas être représenté tant il dépasse ce qu'il a fait lui-même. Par contre, il y a une personne dont il est dit qu'il est son image et son empreinte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image parfaite de Dieu. Adam devait être la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Au lieu de cela, il est chuté comme vous dans votre vie. Vous n'êtes plus vraiment dans cette gloire. Il y aura encore de la ressemblance de Dieu dans notre vie à tous, même le plus bas tombé. Mais quand même, on est loin de ce que Dieu avait projeté pour lui ressembler. Le seul qui a vraiment été l'image de Dieu, la représentation parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour cela qu'il ne faut pas croire en une statue, mais il faut croire en Jésus-Christ, le parfait reflet de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ croit en Dieu, parce que Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu, tant ce qu'il était a reflété Dieu. C'est pour cela que, pour croire dans le vrai Dieu, il faut croire dans sa vraie image. Le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et Christ, homme, c'est écrit. Dans ce passage, il y a quelque chose aussi d'extraordinaire. C'est qu'il est dit, quand même, qu'il a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. À cause de la mort qu'il a soufferte. Adam, le premier Adam, est mort dans son péché. Et le deuxième Adam, Jésus-Christ, est venu dans un monde tout à fait contraire à celui du premier Adam. Le premier Adam, c'était le paradis sur terre. Toutes les conditions étaient réunies pour que ça marche. Parfois, on dit, ouais, mais on est mauvais à cause de la société, à cause des gens, à cause des autres. Adam et Ève n'avaient pas un monde de mal ou de difficulté. Mais ils ont échoué parce que nous sommes mauvais en nous-mêmes. Jésus-Christ, lui, est venu dans un monde déchu. Dans un monde où il y avait les guerres, les Romains. Dans un monde où le péché régnait. Et alors que là, ce monde était hostile à Dieu, Jésus-Christ a vécu une vie parfaitement sainte. Et pour régner, contrairement à Adam qui devait régner sans mal immédiatement, pour régner, il a fallu d'abord que Jésus-Christ règle le problème du péché en mourant sur la croix. Il a d'abord dû souffrir la mort de la croix pour ensuite régner dans les cieux. Alléluia. La Bible enseigne qu'à cause de nos péchés, Jésus-Christ a dû payer de sa vie. Il a versé son sang sur la croix pour nous purifier. Et à cause de ce sacrifice accompli dans la perfection de son humanité, il a été reçu par Dieu le Père, ressuscité d'entre les morts. Et la Bible nous dit que Jésus règne actuellement. Alléluia. Nous ne le voyons pas encore sur la terre, mais nous le voyons couronné de gloire et d'honneur dans les cieux. Jésus-Christ règne. On chantait autrefois un petit chœur, je ne sais pas si vous le connaissez, « Il est un homme dans la gloire ». Il est un homme dans la gloire. Au début, quand je le chantais, je me disais, mais c'est pas biblique ça. C'est pas biblique. Il est glorifié comme s'il n'était plus homme. Jésus-Christ sera pour l'éternité homme dans la gloire. Son humanité ne s'est pas envolée. Et ce psaume 8 qui prédisait que l'homme régnerait sur toute l'œuvre des mains de Dieu s'est accompli en Jésus-Christ. C'est l'homme dans la gloire qui règne. Et la Bible enseigne que quand Jésus-Christ va revenir, il établira même son royaume sur la terre. Dieu soit béni. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En réalité, pour toutes les promesses de Dieu, le oui est en Jésus-Christ. Tout ce qui dans la Bible semble ne pas être accompli ou pas fini, pas terminé, en fait se termine et s'accomplit en Jésus-Christ. Alléluia. Et d'ailleurs, ça sera mon mot de la fin, vous avez vu que le but, ce n'est pas que Jésus-Christ seul règne. Verset 10, il est dit, nous l'avons lu tout à l'heure, il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Non seulement ce psaume s'est accompli en Jésus-Christ, mais ce psaume va même s'accomplir pour nous tous. Alléluia. On pourrait dire, mais comment Dieu va faire pour que ce qu'il a promis à l'être humain s'accomplisse? Comment va-t-il rattraper la situation? Comment Jésus-Christ? Alléluia. Il est la réponse. Le psaume 8 promettait à l'être humain qu'il régnerait. Dieu ne ment jamais. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. Ça ne s'accomplit souvent pas comme nous on pense. Et souvent nous on est découragés, on se dit, ben maintenant c'est fichu. Mais en réalité, en Jésus-Christ, il y a toujours la possibilité du rétablissement. Nous avons lu qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. La Bible enseigne que Jésus-Christ est mort, ressuscité et qu'il règne dans les cieux pour y préparer une place afin que nous régnions avec lui. Et alors, quand il reviendra, ce psaume 8 sera totalement réalisé. En Jésus-Christ, nous régnerons pour toujours. Alléluia. Quelle espérance. Amen. Quelle espérance. Et nous pourrions dire alors avec ce psaume 8, mais qu'est-ce que je suis pour que tu aies pris soin de moi comme cela? Mais qu'est-ce que je suis pour que tu aies donné ton fils afin qu'il meure, qu'il règne, pour que je règne avec lui? Alléluia. Et ce qu'il y a de beau dans ce que Dieu fait par Jésus-Christ, c'est qu'au final, on reste toujours, nous les humains, à notre place. Parce que quand on règnera, ce sera grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Souvent, on pense que régner, c'est régner sur les autres. Ça, c'est charnel. C'est l'être humain. Dès qu'on parle de règne ou d'autorité, On pense que régner, c'est dominer les autres. Mais le règne dans la pensée de Dieu, ça n'a aucun rapport avec la domination sur les autres. Par exemple, dans Romains, il est question de régner dans la vie par Jésus-Christ. En fait, le règne que Dieu nous promet, c'est de régner sur le péché, de régner sur le mal, de régner sur ce qu'il aura fait de ses mains dans le monde nouveau. Il nous permettra de régner. Dans le monde à venir, nous ne serons pas toujours à prier et à contempler. Nous participerons à l'organisation de ce nouveau monde. Nous y régnerons. Alléluia! Mais nous ne dominerons pas sur les autres. Ça, c'est le péché qui a introduit cette notion-là. On pense que dans la vie, être fort ou régner, c'est dominer sur les autres. Mais c'est très, très éloigné de la pensée de Dieu. Jésus-Christ, qui est Seigneur et qui règne sur l'Église, ne nous domine pas. Il a donné sa vie pour nous sauver. Alléluia. Voilà ce psaume 8 inspiré par David et accompli en Jésus-Christ. Alors, au fond, dans votre vie, si vous voulez que votre vie ne soit pas décevante comme le premier Adam, il vous suffit de croire de tout votre cœur en Jésus-Christ pour être sauvé, relevé et participer à son règne actuel. Les chrétiens règnent dans la vie par Jésus-Christ, c'est enseigné. On règne justement sur tout ce qu'était notre vie d'avant. Alléluia. Et ce règne se terminera pour toujours, enfin, dans le paradis retrouvé. Dieu aura le dernier mot, grâce et en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.